quatre épices, basilic indien. Dans son jardin, Denise Rangama fait pousser les épices que Kelly affectionne particulièrement.
C'est la feuille de calmpilé que j'envoie à Kelly régulièrement par colis.
Jamais je me serais dit une fois dans ma vie qu'on serait chef étoilé.
J'aime bien quand c'est carré, que ça file droit, donc il faut que ça se ressente aussi sur la table.
La fameuse légine, donc le clin d'œil à mon papa. C'est un poisson qui est méconnu ici en France métropolitaine. Au-dessus de la légine, on a posé des petits suprêmes de citron, donc on fait un rougail citron. On y va, de légine déguste à la 10. Merci.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster LM. Quand ça file droit, c'est elle qui le dit, elle pratique son métier de chef. Vous allez le voir avec inspiration, ambition, détermination et elle nous offre aujourd'hui sa leçon de cuisine en direct en ce dimanche 8 mars où l'on célèbre, comme vous le savez sans doute, la journée internationale des droits des femmes. C'est Kelly Rangama, bonjour.
Bonjour.
Ça va Kelly?
Très bien.
On est ravis de vous accueillir devant un public en petit comité dans le studio 621 de la Maison de la Radio. Merci, cher public, d'être là. Vous n'êtes pas là pour rien, car vous allez certainement un peu goûter des assiettes que Kelly va nous préparer. Kelly a 32 ans. Vous êtes devenu un petit phénomène. Vous vous êtes fait une place au soleil sur la scène gastronomique française. Vous êtes originaire de La Réunion. Oui, vous avez fait un beau parcours dans Top Chef en 2017. Et vous avez ouvert en juin dernier votre restaurant, le FAHAM. F-A-H-A-M, qui veut dire...
C'est une orchidée endémique de La Réunion.
C'est ça, ce qui veut dire orchidée en créole. On est rue Cardinet, Paris 17e. Et vous l'avez ouvert à quatre mains avec votre mari pâtissier. Vous avez décroché d'ailleurs votre première étoile Michelin en janvier dernier. Vous allez notamment réinterpréter pour nous un plat emblématique de La Réunion. On le cuisine dans toutes les familles et on le retrouve également de façon gastronomique dans vos assiettes.
Le rougail saucisse.
Le rougail saucisse, j'adore ça. Depuis qu'on a voyagé avec la bande dont on va déguster dans cette île, le rougail saucisse est un plat du patrimoine français absolument prodigieux. On parlait de votre mari, et bien il est ici, il s'appelle Jérôme Devrez et il est également en notre compagnie en ce dimanche.
Bonjour.
Vous aussi Jérôme, vous avez un beau parcours qui vous a mené dans les cuisines du Prince de Galles, de la Réserve, du Bristol, au temps de Palace Parisien. Vous travaillez à quatre mains avec Kelly aux femmes, on l'a dit, gâteau, patate. Même si vous n'êtes pas d'origine réunionnaise, vous maîtrisez parfaitement ce dessert réunionnais.
Tout à fait.
Vous allez nous en faire une démonstration car on a aménagé pour nos invités un plan de travail. Mes chroniqueurs sont aujourd'hui des chroniqueuses. Tout d'abord notre journaliste et critique gastronomique Esther El Payani.
Ça va, ça va. Bonjour, quel enthousiasme, ça fait plaisir.
Au menu aujourd'hui.
Au menu du mimosa. J'aime bien parler de fleurs aussi, vous savez.
Il y en a partout, elle a fleuri, carrément. Le plateau 621 de la Maison de la Radio et le jaune mimosa contraste avec le rouge France Inter. Et puis on a également notre compagnie, celle qui vient régulièrement nous parler vin. Mais on ne l'avait pas vue depuis un moment.
Désolée.
Elle vient surtout quand elle a un peu moins de travail dans ses vignes de Loire, un peu moins de travail avec ses livres sur le vin, ses événements autour du vin. C'est Sylvie Augereau, bonjour.
Ça va, Sylvie? Merci de m'avoir fait lever très tôt parce que ce matin j'ai longé la Loire avec le jour qui se levait sur la Loire en crue et c'était sublime.
Prodigieux, spectacle extraordinaire et aujourd'hui vous nous parlez de vin au féminin.
Eh oui, désolé.
Mais c'est une surprise que vous débouchez tout à l'heure. L'émission est réalisée par Laurent Thomas avec Alexandre Chenet et Nicolas Delmas à la technique. Nadia Chougui et Mathilde Verfailly à la préparation. Si vous avez des questions ou des réactions à la maison, notamment sur la place des femmes dans la gastronomie, deux façons de nous contacter en direct. Un mail à onvadeguster@radiofrance.com et le bouton intervenir depuis l'appli mobile de France Inter. Retrouvez d'ores et déjà nos infos pratiques et les recettes de nos deux invités sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant votre leçon de cuisine, c'est moi qui vous cuisine, Kelly, Jérôme et d'ailleurs mes chroniqueuses également. J'ai quelque chose à vous faire goûter à l'aveugle. C'est un élixir que vous avez dans une petite verrine juste devant vous. Merci de le goûter, éventuellement d'identifier ce produit et de me dire ce que vous en pensez.
Moi j'en ai bu une grosse gorgée, c'est très fort.
Ah,
c'est très fort.
Qu'est-ce que vous appelez fort?
Ça vient du soleil, non?
Ardent, poivré.
Ouais, ardent, poivré, ouais.
Bah, on est sur de l'huile d'olive.
Oui, hein. Oui. Jérôme, bravo. Déjà, on est sur de l'huile d'olive. Comment vous la qualifieriez, Kelly Rangama?
Assez puissante. Moi, l'huile d'olive, je l'aime pas trop corsée parce que je trouve que ça vient des fois un peu trop gâcher le produit. Mm-hmm. Mais là, elle est bien équilibrée. Elle a le parfum d'olive. Ça sent le soleil. Hein. Elle est pas au rendez-vous à Paris, mais ça sent le soleil.
Elle est assez ardente, absolument.
Ouais. Petite note de feuille d'artichaut quand même.
Hein. Et oui, alors là, bravo, parce que là, vous mettez le doigt sur un arôme qui a été clairement identifié par le centre technique de l'olivier. Figurez-vous, j'ai sous les yeux le rapport d'analyse de cette huile d'olive. Alors, précisons que vous avez dans vos verres le cru 2019, donc vraiment l'huile d'olive qui a été récoltée et pressée en décembre 2019. Zéro défaut détecté. Au nez, verdure et poivre vert. En bouche, artichaut et amande. Et la conclusion pour l'analyse de cette huile d'olive, c'est fruité vert intense et harmonieux, structure marquée. Et je peux vous préciser que la variété d'olive est l'aglando, ce qui peut vous donner une indication sur son origine, son terroir. C'est une belle histoire de copain, cette huile d'olive, puisqu'elle a d'ailleurs été baptisée la récolte des amis. Pourquoi ? Parce que Julie-Marie, oui, et son mari Richard Favre possède quelques 2000 pieds d'olivier plantés sur des restanques sur 8 hectares. Cet oliveraie, est situé sur la colline de Beaunieux. On est donc dans le Luberon avec une vue imprenable sur la colline Sainte-Victoire, sur la montagne Sainte-Victoire, excusez-moi. Et quand viennent les vendanges au début du mois de décembre, figurez-vous, ils ont une tradition depuis une dizaine d'années, c'est d'accueillir tous leurs amis qui viennent les aider à récolter en échange d'un accueil festif, de quelques agapes pendant plusieurs jours, d'une vue absolument superbe sur la Provence. Alors au début, il n'y avait que quelques copains, et puis ensuite ce cercle d'amis s'est élargi, et aujourd'hui ils sont une centaine à se retrouver tous les mois de décembre pour récolter et faire un peu la fête. Ce magnifique élixir se distingue par une appellation d'origine protégée, huile d'olive de Provence AOP, elle est également produite en agriculture biologique. Alors on la trouve pas encore partout, je vous ai indiqué quelques adresses pratiques sur notre site internet, et pour se la procurer, vous avez donc notamment des expéditions en ligne, et c'est une huile de grande qualité qui a déjà été repérée par quelques chefs comme leur voisin Édouard Loubet, le chef 2 étoiles du domaine de Caplongue à Beaunieux. Comment vous l'utiliseriez, cette huile d'olive, Kelly? Pour réveiller un peu des crudités ou...
Crudité, ou je dirais peut-être un petit carpaccio de Saint-Jacques.
Carpaccio de Saint-Jacques, très bonne idée, puisque vous allez peut-être nous en faire un tout à l'heure.
Tout à fait.
La récolte des amis. Toutes les références à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. On se retrouve juste après un bon gros rock aux convictions écologiques et chanté au féminin par Big Teeth avec le titre Note. C'est un choix de l'ami Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
Blanket of thirst. It's not the hunger revealing, no.
On va déguster en direct et en public aujourd'hui, en ce dimanche 8 décembre. Merci beaucoup d'être là. Nous célébrons la journée internationale des droits des femmes, des droits des femmes. Nous soumet comme jeu de mots un auditeur. C'est bien vu, non, les femmes.
Ouais, c'est Frédéric Hou qui a encore signé ça.
Bravo, on aime beaucoup les jeux de mots dans cette émission, vous l'aurez compris. Et on rend hommage à toutes celles, chefs, artisanes, paysannes, vigneronnes, qui expriment leur talent dans la gastronomie. Est-ce que vous connaissez, chers amis, Madame Goetz? Je vous en voudrais pas du tout, hein. Si vous ne la connaissez pas, je la connaissais pas non plus. C'est, figurez-vous, la première femme maître boulanger. Ça s'est passé en Alsace dans les années 60. Et ben, justement, est-ce que vous voulez savoir comment ça se passait dans ces années-là, quand une femme accédait à ce genre de statut professionnel? Voici l'extrait édifiant déniché par notre réalisatrice Lauranne Thomas d'un reportage réalisé en 1960 pour la RTF Radio Diffusion Télévision Française.
Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites là, monsieur Goetz?
J'enlève la part du pétrin.
Vous avez presque terminé votre travail, le pétrin est vide, est-ce que je peux me permettre de vous offrir une cigarette?
Ah non, c'est défendu de fumer parce que c'est mon patron qui l'a défendu.
Le patron, mais enfin je ne vois pas de patron, je ne vois que madame Goetz, votre épouse.
Oui, mais c'est mon patron quand
même. C'est elle le patron?
Oui.
Madame Goetz, en effet, nous jouons la surprise, nous savons que vous êtes la première femme en France à avoir obtenu le brevet de maîtrise de maître boulanger.
Oui.
Pourquoi avez-vous décidé de passer cette épreuve?
Pour continuer et prendre la succession de mon père.
Je crois qu'il n'est pas obligatoire d'être maître boulanger pour fabriquer du pain.
Non, pour succéder, je n'ai pas obligé, mais comme je voulais prendre des apprentis.
Des apprentis ou un apprenti?
Oh, premièrement, un apprenti, et c'était mon mari.
Et en tant que maître boulanger, vous allez être obligé de lui donner des notes.
Ah oui?
Est-ce que ces notes seront bonnes?
Oui, elles sont bonnes, mais sauf l'obéissance.
Sauf l'obéissance?
Ah oui.
Néanmoins, le pain est bon. Vous en vendez bien, oui?
Ah oui?
Merci. Monsieur Goetz, vous avez entendu ce qu'a dit madame Goetz, la question de l'obéissance?
Oui, oui, je sais, mais elle aussi, elle doit m'obéir un peu.
Alors,
le soir, au moins.
Elle aussi, elle doit m'obéir un peu le soir au moins. Je sais pas s'il faut tellement rire de ce reportage. En tout cas, une femme supérieure hiérarchique de son mari au pétrin. Mais à la maison, elle retrouvait son statut de femme. Fallait quand même pas déconner, hein. Qu'est-ce que vous en pensez de cette... On se dit que c'est assez loin et en fait, ce n'est qu'il y a 50 ou 60 ans.
C'est peut-être encore un peu d'actualité.
Un peu.
Jérôme et Kelly, comment ça se passe? Est-ce qu'officiellement, c'est Kelly la chef?
Tout à fait.
Et vous l'acceptez comme telle, bien sûr?
Ouais, bah depuis toujours. Après, ça s'est fait un peu naturellement. Il y a eu Top Chef, il y a eu plein de choses, des émissions. Et donc, bah, il a toujours fallu soutenir Kelly dans plein d'épreuves, les épreuves de la vie aussi, qui ont fait qu'on s'est beaucoup soutenu depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et puis, c'est tout naturellement, en fait, c'est venu comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'image du femme, à la base, c'est Kelly, mais c'est aussi nous, et on le met en avant, et parce que je fais la partie sucrée, mais la base, ouais, c'est vraiment Kelly, ouais.
Est-ce que vous avez encore, Jérôme, des copains chefs un peu machos qui vous disent, oh là là, vous arrivez à accepter, t'arrives à accepter l'autorité de ta femme, etc.
Je suis bien mon tour, ouais, je pense au niveau des amis, ça c'est plutôt pas mal.
Ouais.
Mais non, ça existe plus. Enfin, en tout cas, dans notre cercle à nous, ça existe pas forcément.
Non, et puis c'est pas ce qui se ressent Kelly. Quand on vient au restaurant aux femmes. C'est vraiment le femme, enfin à nos yeux, à tous les deux, et c'est ce qu'on transmet aussi, c'est que c'est Kelly et Jérôme, mais c'est pas que Kelly. Alors oui, aujourd'hui, il y a un nom qui est mis en avant, parce que généralement, c'est le chef de cuisine qui passe au premier plan, mais voilà, le femme n'existerait pas s'il n'y avait pas Jérôme, et si aujourd'hui on a une étoile aussi, c'est 50-50, c'est tous les deux, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, c'est vraiment un part égal, c'est vraiment une association, c'est vraiment un mariage de nous deux, aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle.
Et Kelly Rangama, quand aux douanes ou dans un interrogatoire de police, on vous demande votre métier, vous répondez quoi? Cuisinière, chef?
Non, je réponds chef de cuisine.
Et vous écrivez comment, chef?
Eh bien, j'écris chef au masculin. au féminin.
C-H-E-F.
Ouais.
Et pourtant, c'est H-E-2-F-E. C'est popularisé, notamment grâce à notre amie Esther El Payani qui a signé Chef, 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France. Coécrit avec Véran Frediani aux éditions Nourriture Fou. Je vais y arriver. Le vocable chef, c'est peut-être un détail, me direz-vous, mais...
En fait, l'important, c'est que chacune écrive son métier comme elle veut. C'est ça, c'est d'avoir la liberté de choisir le nom de son métier parce qu'on s'y reconnaît. Et chef avec deux F-E, c'était la forme traditionnelle en Suisse. D'ailleurs, Anne-Sophie Pic l'utilise depuis longtemps en se référant à l'usage suisse. Au Canada aussi, c'est assez fréquent. Il a signalé que quand Véran Frediani a fait son documentaire, donc la co-autrice de l'ouvrage que vous venez de citer, François-Régis, elle a appelé à la recherche des femmes chefs. Parce qu'il y a plusieurs années, le mot « chef » ne s'était pas popularisé en France. Et quand on a fait l'ouvrage, on a choisi de l'appeler « chef-e » pour marquer la différence à l'écrit et pour dire « chef-chef, il y a des hommes et il y a des femmes ». Parce qu'on a beaucoup popularisé l'image du chef de cuisine au masculin. L'important, c'est de faire, surtout de se reconnaître dans ce qu'on fait tous les jours.
Et précisons d'ailleurs que ça fait écho un peu à une polémique qu'il y a eu sur le dictionnaire Larousse en ligne, qui a été épinglé le 4 février dernier pour sexisme. Le mot « boulangère », on entendait justement la première maître boulanger, mais c'était pas au féminin. Boulangère correspond à la définition suivante. Femme du boulanger qui travaille à la boutique, comme charcutière. Femme du charcutier qui travaille à la boutique, même si pour être totalement honnête, faut préciser que dans la version 2020 du Larousse papier, le dictionnaire papier, on lit enfin boulanger et boulangère. Personne qui vend et fait du pain. En revanche, le mot chef, E2FE, n'est pas entré dans les dictionnaires.
Mais c'est comme la même controverse avec auteur, autrice, écrivain, écrivaine. Est-ce qu'on est l'un, est-ce qu'on est l'autre?
C'est pas joli.
Autrice, est-ce qu'on se pose la question sur les mots masculins, s'ils sont jolis ou pas? Je crois que c'est l'usage aussi qui fait qu'on s'y habitue, en fait. Mm-hmm. Et puis le mot féminin en cuisine, une chocolatière, c'est un instrument pour verser le chocolat. Avant d'être une femme qui fait le chocolat,
alors qu'il y en a un paquet maintenant.
Et une cuisinière, c'est un ustensile aussi. Donc la féminisation a souvent été réservée aux ustensiles. Maintenant, dès le XVIIe siècle, on féminisait les noms. Autrice, on remonte maintenant aux origines de la langue française avant qu'on dise, le masculin l'emporte sur le féminin. La règle a changé. C'est à nous de changer les règles.
C'est peut-être à nous de changer les règles. On vous a invité aussi, Kelly Rangama, car vous avez été l'une des rares femmes chefs récompensées par le guide Michelin dans son palmarès 2020. 30 femmes chefs étoilés sur un total de 628 chefs étoilés, ce qui représente moins de 5% de femmes dans la cuisine, même si le Michelin aurait, selon vous, Esther El, des problèmes de comptabilité.
Oui, parce que je crois qu'ils vous ont dit qu'il y avait 3 nouvelles femmes avec une étoile, c'est ça François-Régis?
Il y aurait 4 nouvelles femmes chefs étoilées, une femme qui passe à 2 étoiles, c'est Stéphanie Lequelec au restaurant La Seine, et ensuite il y a 3 femmes, 1 étoile, dont Kelly Rangama fait partie.
Eh ben non, je suis désolée, ils savent pas compter, hein, parce que il y a, et en fait moi j'en ai compté 6, c'est quand même bizarre. Donc il y a, en plus de Kelly, Eugénie Béziat à la Flibuste Martin, Jess Yang qui travaille avec Robert Compagnon au Rigmarole, donc là en fait on est déjà à 3, mais il y a aussi Tabatamé aux Apothicaires à Lyon, et puis il y a Anne Legrand et Cléo Modafari, 2 chefs qui travaillent ensemble à l'Innocence dans le 9e.
Vous voulez dire qu'ils n'ont pas compté les femmes qui travaillent avec leur mari et qui sont à 4 mains en cuisine?
Je sais pas comment ils se sont débrouillés. En tout cas, il y en a plus que ce qu'ils disent et ça montre l'ampleur du problème. C'est que même quand ils leur accordent une certaine forme de reconnaissance, ils les voient pas. C'est quand même énorme, non? De se tromper sur ses propres chiffres, non? Elles sont là et on ne veut pas les voir?
Kelly, oui. Il y a peut-être un peu de ça. On posera la question au guide Michelin. Kelly Rangama, cette étoile Michelin qui est tombée, c'était un cadeau tombé du ciel?
Ouais, c'était une énorme surprise pour tous les deux. C'est vrai que pour nous, dans notre milieu, à obtenir une étoile au bout de 8 mois...
C'est ça, car vous avez ouvert en juin dernier seulement.
Tout à fait, ouais. Le 1er juin 2019, on va pas dire qu'on travaillait pas pour ça, on travaillait pour une chose essentielle pour nous, cuisiniers, faire plaisir aux clients, faire en sorte que les gens reviennent, fidéliser une clientèle, faire tourner ce restaurant, se faire plaisir aussi, parce que c'est quand même la base de notre métier. Et on la cherchait pas tout de suite cette étoile. Elle est tombée rapidement, subitement, mais ça montre que le travail est fait, que on n'est peut-être pas si mauvais que ça non plus. et puis c'est une belle récompense dans le sens où enfin on met nos dom-toms en valeur, à l'honneur. Jérôme a une attache pour la Guadeloupe avec sa maman qui est depuis plus de 20 ans, lui-même y a vécu. Moi, étant d'origine réunionnaise,
c'était aussi le moment de montrer de quoi on était capable et que la gastronomie française peut se marier avec les produits ultramarins, et c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu tous les jours au restaurant.
Et vous allez nous le montrer dans un instant, justement, que vous opérez un jumelage formidable entre ces France d'outre-mer, la Guadeloupe où vous avez des attaches, même si vous êtes d'origine bourguignonne, hein, c'est ça Jérôme ?
Ouais, enfin,
votre maman vit en Guadeloupe.
Ouais, voilà. Ma mère habite en Guadeloupe depuis plus de 20 ans, moi j'y ai vécu 2 ans avec elle. Pour le boulot, pour la cuisine, c'est ça, tout simplement. Et puis pour voir un petit peu, pour un pâtissier, avoir des mangues à prendre directement dans l'arbre et les fruits de la passion dans le jardin de sa maman, c'était juste génial. Et aujourd'hui, ça continue parce que maman, je pense que vu l'heure avec le décalage horaire, elle m'écoute pas. Mais c'est elle qui nous fournit les piments végétariens qu'on met à la carte du restaurant.
Ah là là, piment végétarien, c'est formidable. Ces petits piments que j'ai eu encore la chance d'expérimenter en Martinique il y a assez peu de temps.
Deux, ouais. Voilà.
Mais c'est l'idée en tout cas d'avoir le goût du piment sans la force.
Exactement.
Pour la métropole, c'est bien, parce que le piment, c'est quand même un sujet délicat. Nous, on s'est posé beaucoup de questions au début. Est-ce qu'on... Alors, mettre du curcuma, tout ça, parce qu'on mélange l'épice et le piment en métropole. Souvent, quand on vous dit que c'est épicé, on va vous dire que c'est pimenté, alors que c'est faux. Donc voilà, donc nous, on essaye d'éduquer un petit peu gentiment là-dessus, dans l'assiette. Mais c'est un vrai travail de fond. Et c'est vrai qu'après, sur le piment, c'est pas tout le monde qui va adorer le piment, ou même goûter, parce que c'est vrai que ça prend tout de suite en bouche, c'est très fort, c'est assez puissant. Donc il faut savoir l'utiliser. Je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un petit équilibre assez sympa.
Vous faites une cuisine donc ultramarine en mélangeant les influences de différentes régions de cette France lointaine, hein, d'un côté les Antilles françaises, la Réunion, etc. Et justement, votre famille, Kelly Rangama, est très importante et fut très importante. Il y a eu d'abord votre papa, figure tutélaire, qui... faisait la cuisine familiale. Il y a également votre maman, Denise.
Ouais.
On va voir qu'elle continue à vous fournir en excellents produits de la Réunion. Il y a un plat emblématique que vous pratiquez avec votre papa, car vous aviez une relation assez fusionnelle avec lui, je crois, notamment au fourneau. Il n'est plus aujourd'hui ici,
ouais.
Mais en tout cas, il a été très important dans votre... imaginaire culinaire, notamment
ouais,
autour du rogail saucisse.
Ouais, il a été un peu le déclencheur de cette passion pour la cuisine. Je n'étais pas faite pour ça à la base. Et à la Réunion, vous savez, c'est traditionnel le week-end de faire à manger, de préparer des plats tels que le rogail saucisse, un boucané. Voilà, c'est soit on prend la voiture et on va en bord de plage pique-niquer, ou soit bon voilà, on réunit toute la famille, on mange à la maison. Et mon père, n'aimant pas se retrouver seul, toujours besoin d'être accompagné, nous réveillait le dimanche pour l'aider à préparer les épices au mortier, piler l'ail, éplucher les oignons, tailler les tomates en brunoises, etc. Mais vous imaginez bien, à 15 ans, pas trop envie de se lever le dimanche matin pour l'aider à préparer des épices. Quoi.
Kelly était réquisitionnée.
C'est ça. Et en fait, je pense que papa m'a transmis une transmission inconsciente. Je le définis comme ça. Parce qu'il m'a donné son amour pour la cuisine. Aujourd'hui, on a un petit laminoir au restaurant. C'est son laminoir à lui qui date d'il y a, je sais pas, j'ai
laminoir pour
ans,
faire les pâtes.
Plus de 15 ans. Ouais. Pour faire des pâtes fraîches.
Oui, puisque la cuisine aussi chinoise et les raviolis, etc., sont très importants à la Réunion.
Ouais. Et je pense que papa m'a transmis, sa passion pour la cuisine. Il adorait ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ça s'est transmis. Avec moi.
Définition du rougail saucisse selon papa Rangama.
Alors le rougail saucisse, de préférence, si on peut faire ses saucisses soi-même, c'est mieux.
Waouh, avec de la chair à saucisse, des boyaux,
exactement.
On en bosse et on bosse.
Il faut faire une émission saucisse.
Oui, on la fait cette émission saucisse.
Je l'ai répété.
Si on peut les faire soi-même, c'est mieux. Si on peut les fumer, c'est encore mieux. Saucisse fumée, c'est... J'y suis déjà là. Enfin bref.
Éventuellement, pour faire un rougail saucisse un peu à l'accent métropolitain, on pourrait utiliser des saucisses de Morteau ou ce genre de saucisses de l'Est de la France.
Saucisses de Morteau, même maintenant, en grande surface, on retrouve des saucisses fumées, tout simplement.
Très bien.
Très abordable. Donc, la recette de papa, donc saucisses fumées. Si on peut cuisiner au feu de bois, c'est encore mieux.
Ah ouais, ça donne
la
un
cuisine
goût.
Au feu de bois ramène un goût et des saveurs différentes de la cuisine au gaz.
Mm-hmm.
Et puis la recette de papa, toujours ajouter une petite pointe de folie. Nous, on met toujours une petite feuille de combava, un petit zeste de combava, toujours relever le tout. Alors, attention, pour certains réunionnais, tout ça, c'est un peu de fantaisie. Après, moi, je vous parle la façon dont moi j'ai été éduquée et comment mon papa m'a montré. Donc après,
ça se passe dans une cocotte, il y a aussi des oignons, des tomates.
La marmite, ouais, dans une marmite. On part sur une base d'huile d'olive, oignons sués ou échalotes. Ail, gingembre, pas d'ail, gingembre, gros sel, piment, pilé au mortier, important.
Mm-hmm.
On fait revenir tout ça, on rajoute nos tomates fraîches. À La Réunion, il y a du soleil toute l'année, donc on a des tomates toute l'année. ici en métropole, si on n'en a pas, on n'hésite pas à basculer sur de la tomate pelée, on trouve...
En conserve.
Exactement, on trouve un moyen de remplacer tout ça. On laisse mijoter tout ça, une petite branche de thym, du thym frais, c'est important. On laisse compoter tout ça, on fait frire nos saucisses. Alors, moi je dis frire parce que j'utilise aussi des termes encore réunionnais. On fait revenir nos saucisses, on va chercher une coloration sur nos saucisses.
Elles sont pas totalement plongées dans l'huile, mais voilà, on les fait revenir, rissoler.
On fait revenir nos saucisses, exactement, on va chercher une coloration pour en dégager des sucs. On rajoute ces saucisses dans notre sauce et là, on laisse mijoter à peu près une vingtaine de minutes. On rajoute une ou deux feuilles de combava. On vient zester un petit peu de combava. Le but, c'est d'avoir un rougail qui soit pas trop sec, bien en sauce et pas trop gras. Et avec ça, on sert un petit riz basmati, riz cuit au rice cooking.
C'est marmite ça. De riz et éventuellement du grain.
Pour les locaux. On peut rajouter du grain. Il y a différentes écoles.
Le grain, c'est les légumineuses qu'on utilise beaucoup, les haricots, les lentilles. Ouais. Les légumineuses, en quelque sorte.
Exactement.
Vous allez venir derrière le plan de travail, Kelly?
Allez.
Et vous allez commencer ce rougail saucisse légèrement réinterprété. On va vous laisser cuisiner parce que là, vous l'avez... Expliquez-nous un peu le principe de votre revisite, entre guillemets.
Alors là, le but de ma revisite, c'est... On récupère tous les éléments d'un rougail saucisse. On a le riz, les saucisses et la sauce rougail.
Oui.
Sauf qu'en fait, visuellement, vous n'avez pas l'impression de manger un rougail saucisse. Mais les goûts sont là. À La Réunion, on fait un zambrocal. Le zambrocal, qu'est-ce que c'est? C'est du riz, du clou de girofle, du safran. Curcuma, oui, ça aussi c'est un autre sujet. À La Réunion, pour nous, le curcuma et le safran, ce sont deux choses similaires. On ne fait pas la différence. Sauf qu'en métropole, le safran, ce sont les pistils.
Et oui.
Et le curcuma, on est sur des notes beaucoup plus terreuses, sur de la poudre d'ailleurs.
Le curcuma, c'est un peu le safran du pauvre, en quelque sorte. Oulala, non, j'ai rien dit.
Ouais, non, on va pas partir là-dessus.
La grosse gaffe.
C'est très métropole.
C'est un rhizome essentiel, cousin du gingembre d'ailleurs. Hein.
Tout à fait. Donc voilà, nous, on travaille sur un curcuma pays, où on met en avant Talent Réunion, parce qu'on a aussi des petits producteurs. Il faut continuer à les mettre en avant. Ils sont loin, mais ils méritent d'être connus ici en métropole.
Et là, vous en versez dans la casserole où se trouve
notre fameux riz. Donc moi, ici, j'ai pas repris un riz basmati classique. Je suis partie sur un risotto.
Très
une
bien.
Base de risotto. Mais j'ai tout remis. J'ai remis le curcuma, j'ai mis des clous de girofle. Donc là, il a été pré-cuit pour gagner un petit peu de temps. On rajoute un petit peu de fond blanc.
Ouais. Définition du fond blanc, Kelly?
Alors, définition du fond blanc, des ailerons de volaille, des carcasses que vous avez un petit peu à la maison sous le coude. Un pied de veau pour ramener ce côté gélatineux, pour que ce soit pas trop liquide. Des parures de poireaux, du céleri, un oignon clouté.
Waouh!
On laisse cuire ça pendant 3 heures. Et ça, c'est notre base, en fait, pour préparer toutes nos sauces, tous nos jus.
Très bien.
Donc
là, vous mélangez le fond blanc avec le riz au curcuma.
Tout à fait. On va lui donner une consistance... pas trop serré, un petit peu détendu.
Ouais, un peu fluide.
Exactement. À côté, je vous ai parlé de la sauce rougail tout à l'heure. Oignon, gingembre, ail pilé. J'ai préparé la sauce en amont avec des tomates.
Magnifique.
Je vais venir détendre mon riz.
Avec cette sauce?
Avec cette fameuse sauce.
Ah, on va retrouver là les arômes du rougail traditionnel. Parce que les réunionnais pourraient être un peu effrayés par votre façon de vous réapproprier un plat très familial, de l'emmener un peu ailleurs.
Il faut faire attention en fait.
Mais on retrouve le goût en même temps.
Les goûts sont là, c'est juste qu'au visuel, moi ce que je fais en fait avec Jérôme, c'est qu'on va chercher à donner un coup de peps, donner un peu de texture en fait au plat. C'est juste ça, mais les goûts sont là. Alors oui, certains vont me dire oui, mais le rougail saucisse n'a pas besoin de revisite. J'ai pas dit qu'on avait besoin de revisiter le rougail saucisse. C'est juste que voilà, je prépare un rougail saucisse à ma façon.
C'est votre interprétation.
Tout à fait.
Rassurez-nous, il y a quand même l'élément viande, saucisse dans le rougail saucisse.
Ah oui, exactement, exactement. Donc
là, vous détendez, vous réchauffez votre riz dans la casserole. Il est de couleur bien. Attendez, je vais vérifier la couleur. Je me penche. Orangé, corail, ça vous va comme définition chromatique?
Ouais. Et les saucisses, alors du coup, vous n'aurez pas le morceau de saucisse comme on retrouve dans un vrai rougail.
Ouais.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré de la chair à saucisse. Je l'ai assaisonné comme un rougail. Gingembre, un petit peu d'oignon vert, donc cive pour les Antilles, cébette pour la métropole, oignon vert pour la Réunion. On va goûter quand même.
Attention parce que vous allez avoir une auditrice qui est en train de prendre place autour de notre plateau et qui va expérimenter, crash tester votre rougail saucisse. Vous vous appelez Orlane, je crois.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous êtes prête à goûter ce rougail saucisse revisité?
toujours prête à déguster.
Et il y a un accord qui se prépare avec une bouteille mystère que nous a apporté Sylvie Augereau. Ce que je vous propose, c'est que on va justement laisser Kelly terminer sa recette. On va essayer de voir quel vin pourrait bien aller avec justement cette dégustation. Et à l'arrivée, c'est Torlan qui va déguster cet accord mes vins.
On va déguster sur France Inter.
Sylvie Augereau, c'est à vous.
Merci. Alors il faut le dire, côté vin, c'était pas gagné pour les femmes. À une époque, on les zigouillait même si elles avaient bu. Ça reste encore pas très bien vu. Hein. Ouais. Et de mon temps, c'est-à-dire il y a quelques années à peine, quand j'ai commencé à mettre le nez dans le vin, mes copains vignerons invitaient mon compagnon, mon mec, dans les descentes de cave, mais pas moi.
Oh là là.
C'était mes copains quand même. Et on a même vu des machos cracher le vin en dégustation sur les chaussures des femmes. Ça existe encore. Donc les femmes n'étaient pas très bienvenues dans les caves. On dit aussi que leur menstruation faisait tourner le vin.
Ah
ça
oui.
S'entend encore, ouais.
Ça s'entend encore. Ouais, et ouais. On dit aussi qu'il faut éloigner une femme qui a ses règles d'une mayonnaise parce qu'elle ne montera
voilà.
pas.
Voilà.
Ouais, ouais.
Ça s'avère. Voilà, c'était donc voilà, je vivais cet étrange drame d'être une femme. Et jusqu'à maintenant, les femmes qui mettaient leur nom sur une étiquette, c'était plus souvent des veuves. Certaines sont immortalisées, dont en Champagne, veuve Clicquot, etc. Des bonnes sœurs ou encore des femmes de que leur mari notable voulait occuper en campagne. Et puis après, on a commencé à parler de vin féminin. Je déteste ce mot. Voilà.
Il y a même des débats jusque dans l'équipe dont on va déguster.
Voilà. Alors, je supporte pas ce mot non plus. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que les premières vigneronnes qui étaient vraiment 100% les mains dans le raisin, c'était des nanas comme Dominique Ovette, qui faisait des vins, elle le dit elle-même, de rugbymen au début.
Charpenté, on dirait.
Voilà, ouais, extrait, démonstratif. Et puis, il y a un petit bout de bonne femme angevin. Ouais, désolé, c'est encore en Anjou que ça se passe. Pascaline Lepelletier, qui a été sacrée l'an dernier première femme meilleure ouvrière de France sommelier. Sommelière, pardon.
Comme elle veut.
Mais oui, mais le titre est sommelier. Hein.
Voilà, le titre est sommelier.
Voilà encore un nom qui n'est pas passé au féminin.
Ouais. Et quelques mois plus tard, première femme meilleure sommelière de France. La classe. Ouf, merci Pascaline, on commençait à avoir soif. Enfin arrivaient donc les femmes des années 80, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Celle dont je vais vous parler aujourd'hui, Catherine Ries, qui est alsacienne comme Madame Kutz, elle est donc née en 83, dans une auberge alsacienne. Elle a passé son enfance dans une campagne reculée, à courir les champs, en culotte, comme elle dit. Les casseroles, c'était pas trop son truc. C'est dehors qu'elle voulait être. Et dehors, en Alsace, c'est les vignes. Il y a pas mal de femmes dans les vignes en Alsace. Elles tirent les bois, elles attachent les sarments, elles ébourgeonnent, comme un peu partout en France, en fait. À genoux, courbés, pliés, des trucs pas toujours valorisants. Alors que l'homme, lui, il est debout, il taille, c'est noble. Et l'homme vinifie, c'est la gloire. Il y a quand même des hommes qui m'ont avoué avoir besoin de mains délicates dans les vignes, celles des femmes, et se réserver le boulot de bourrin, le tracteur. Parce que c'est vrai, le végétal, c'est de l'air, de la lumière, de la photosynthèse, donc du contact, de l'effleurement. La main verte, c'est pas innocent, c'est la main aimante. Quand on parle de biodynamie, c'est ça la base. Et plus tu lui donnes de douceur à la vigne, plus le vin te le rend. Même sa fermentation bouillonnante dans les cuves, ça a des airs de ventre habité un peu. Ensuite, on parle encore presque d'accouchage, quand on extrait les raisins. Et puis, on parle d'élevage. Vinifier, c'est un petit peu materné. Enceinte jusqu'au fond des yeux. Catherine Ries, elle avait bien dans l'idée de tout faire, de la pioche jusqu'à l'étiquette. Maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême. Alors, elle a enchaîné les études, les grandes études, BTS, diplôme de nog, stage à l'autre bout du monde, être un major de promotion, parler 6 langues, ceinture marron. Vous avez l'air ? Je l'ai eu dans la tête pour tout. Et Catherine Ries, donc, elle rentre au pays, en Alsace, pour gérer les vignes du célèbre Michel Chapoutier. Puis, petit à petit, elle fait son nid. 1 hectare et des brouettes en 2012, 4,5 hectares aujourd'hui. À force de planter, de grappiller, c'est courageux. Aujourd'hui, elle s'octroie un peu d'aide, plutôt féminine. Et puis, elle a besoin d'un bonhomme de temps en temps pour taper des piquets ou porter des caisses. Mais en dehors de ça, elle a surtout. Et elle avoue, j'ai eu la chance de tomber dans le monde un peu moins con des vins naturels. Des gens généreux et ouverts d'esprit, tout le monde m'a encouragée. En fait, il m'est arrivé la même chose. Moi qui le connais bien aussi, ce monde de vin, je sens aujourd'hui un vrai vent féminin qui va chasser un peu les nuages. Il y a des Pauline Broca dont Dominique Hutin a parlé la dernière fois, des Laura Yo super costauds dans le Luberon, des Marine Lace en Gaillacois, des Laureline Laborde dans le Jura, des Bourguignonnes, on a tous entendu. Des Ligériennes, ça, évidemment. Et il y a même des bonnes femmes dans le Beaujolais qui font du vin. On les laisse faire. Et puisque c'est notre journée, je vous ai donc apporté un vin rose. C'est pas facile, hein. Voilà, on vous parle, on parle tout le temps des vins orange, on parle que de ça. Catherine a fait la même chose en rose. Parce que c'est une fille, non. Parce qu'en fait, ce cépage alsacien, le Gewürztraminer, il a la peau rose. Et comme c'est le propre de ces vins orange et aujourd'hui rose, c'est qu'on les fait macérer avec la peau dans le jus, donc la peau donne cette teinte, ça en prend la couleur. Voilà, et c'est aussi, c'est la pellicule de raisin, donc qui donne cette couleur. Alors que le vin blanc, vous le savez tous, on presse directement, donc il n'y a pas de contact avec la pellicule. En fait, j'ai aussi rapporté à Kelly, même si elle est autre chose.
Elle va nous expliquer dans un instant. Voilà, ça sent le combava à ma gauche, je vous raconte pas.
Et le mimosa, moi. Le vin sans rien. Et donc, ouais, j'ai aussi rapporté à Kelly parce que c'est très spicy. Parce que le Gewürz, enfin Gewürz, en allemand, ça veut dire épicé. Voilà. Donc, de toute façon, il faut s'accrocher à cette cuisine. C'est pas facile. Et puis, je crois que ça, enfin, je sais pas si vous avez eu le temps de mettre le nez dedans. C'est un petit côté agrume, écorce aussi.
J'allais le dire, je trouve voilà. Ça. Je sais pas si on est influencé par l'odeur, mais il y a l'idée pomelo et notamment l'amertume un peu de l'albédo, la partie blanche.
C'est ces terroirs de grès, les terroirs de Catherine, qui balancent un peu sur les misimes chauds. Et je trouvais que finalement, en fait, on n'était pas loin du planteur.
Ah, carrément. Ouais. Mais oui. Planteur, cette boisson, ce cocktail tropical, bien vu.
Bah, à en la tout fois cas, sensuel et pudique.
Catherine Risse, les vins alsaciens de Catherine Risse. Ouais. Merci beaucoup, Sylvie Augereau. On peut les trouver facilement, ces vins, à quel budget?
On est à 15 euros à la cave, parce qu'évidemment, c'est un vin un petit peu confidentiel. Cette année-là, on chante, en tout
cas. Ça
finira en carrière. On a fait 1500 bouteilles, et d'habitude, ça se limite plutôt à 500.
Très bien.
Mais goûtez, c'est rouge.
Mais on va même tester l'accord. Orlan va goûter justement ce rougail saucisse. Alors, il a une toute autre configuration. On est effectivement dans une espèce de risotto assez fluide. Les Italiens diraient peut-être à l'onda, surmontée de deux boulettes de chair à saucisse qui font office de la saucisse du rougail saucisse. On a entendu piler, hein. Le pilon est très important dans votre cuisine, Kelly Rangama. Vous avez pilé quoi, les épices?
On a pilé du piment. Du gros sel et du piment.
Du gros sel et du piment que vous avez parsemé sur votre risotto.
Que j'ai lié dans mon risotto, tout à fait.
Ah, absolument, et on a entendu des ça c'était la râpe, cette espèce de microplane qui vous a servi justement à râper un agrume vraiment star à La Réunion, c'est le combava.
Exactement, on essaie d'en mettre un peu partout, bon je sais que c'est pas forcément apprécié tout le monde, mais...
J'adore cette espèce, il y en a qui disent que ça sent un peu le vous savez, l'huile essentielle contre les moustiques, la citronnelle.
La citronnelle, ouais c'est vrai,
C'est très, ouais, très capiteux, mais c'est délicat en même temps, très floral et...
Très fort, mais il ne faut pas en abuser, ça peut être vite écœurant.
C'est un goût formidable quand il est justement dosé. Orlan?
Alors, visuellement, c'est assez déconcertant parce qu'on n'est pas du tout sur le classique saucisse rougail que j'ai l'habitude de voir. Mm-hmm. Boulettes, c'est des boulettes de viande panées, enfin je ne sais pas si j'ai les termes exacts, mais en tout cas, ça me fait penser à ça avec un risotto. Et finalement, quand on l'a en bouche, on retrouve tous les éléments... Du saucisse rougail, c'est très goûtu, épicé, sans être puissant et sans laisser une bouche anesthésiée par un piment. Et on retrouve la saucisse telle qu'on retrouve en fait sur un plat saucisse rougail. C'est vraiment délicieux.
C'est vrai, moelleuse. Mais on va la garder là dans la bande. Avec le champ lexical qu'elle utilise pour décrypter la cuisine. Non, franchement, bravo. Hein.
Merci.
Très belle analyse.
Merci.
On n'aurait pas fait mieux. Et sincèrement, c'est délicieux. Ce que j'aime beaucoup. Je redoutais un peu comme ça la couleur de la boulette. Une saucisse un peu sèche, en fait elle est moelleuse, en plus elle est hyper bien condimentée, elle est juste grasse comme il faut. Franchement, c'est un plat prodigieux, j'espère que vous l'avez à la carte du femme.
On l'a pas à la carte, on essaie de la mettre en place une fois par mois. Là, elle sera au menu déjeuner pendant 2 semaines.
Ah, et ben écoutez,
à
bon entendeur, sachant qu'il est compliqué de réserver chez vous de plus en plus, il y a jusqu'à 10 jours de réservation pour les soirs de week-end.
Les soirs de week-end, c'est Jérôme. Presque un mois même. Hein.
C'est presque un mois.
Le samedi soir, en tout cas, c'est très demandé. Après, on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse venir déguster la cuisine. Hein. Mais c'est vrai que nous, on limite aussi un petit peu les quantités. On fait pas de grosses tablées parce que ça ralentit le service. Enfin voilà, on veut vraiment structurer ce qu'on fait dans l'assiette et aussi dans la salle.
Vous avez toujours ce menu déjeuner à 35 euros?
Tout à fait.
Tout à fait.
Incroyable. Belle performance quand même pour une prestation gastronomique étoilée Michelin avec des produits d'excellente qualité. En voilà une belle,
je pense qu'il faut rester, il faut garder la tête sur les épaules, il faut quand même rester abordable et pour un menu express le midi 35 euros, enfin on se met aussi à la place du client Et on se dit que 35, c'est le bon prix. En tout cas, pour l'instant, c'est le bon prix.
Ouais, en tout cas, encore une fois, c'est un bon rapport qualité-prix. Ouais.
C'est à nous de faire le travail derrière, quoi. Donc, de gérer nos marges, de gérer tout ça pour éviter d'avoir trop de pertes.
Vous allez où, Estarelle? Non, je sais pas, elle fait le tour du plateau avec son assiette. Vous en voulez encore, peut-être? Vous avez aimé?
Je suis pas encore très bonne pour,
vous avez
pas encore très bonne pour le service, en fait.
Ah, vous m'apportiez le reste?
Oui, bien sûr.
C'est sympa, on partage tout avec Estarelle. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, Rougail Saucisse. Très, très ambitieux et très réussi. Peut-être pas si compliqué à faire. En tout cas, nos auditeurs peuvent se référer à la recette sur franceinter.fr. À la page, on va déguster gâteau patate dans un instant avec Jérôme Devraise qui va passer également derrière le plan de travail, mais ça c'est juste après une petite pause musicale qui va vous rappeler des souvenirs. Vous connaissez Christine Salem?
Oui.
Ah là là, chanteuse, compositrice réunionnaise, malanguée. On va déguster, se met aux couleurs de la Réunion et des femmes aujourd'hui en ce 8 mars et pas 8 décembre. Il y a Elvira Masson, notre amie chroniqueuse, qui m'a envoyé un SMS en me disant « mais t'as dit 8 décembre ». Non, non, effectivement, on est le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes. Nous sommes avec Kelly Rangama, la chef du FAAM, rue Cardinet, Paris 17e, une étoile Michelin depuis janvier dernier. Vous êtes à quatre mains avec Jérôme Devraise qui est en train de préparer, ou plutôt qui est dans les starting blocks, pour nous faire le fameux gâteau patate qu'il va nous expliquer dans un instant et que va goûter certainement une des personnes de notre public. Juste avant, un petit panier tropical, car on a compris que Denise Rangama, votre maman, à La Réunion, vous envoie carrément des produits qui voyage donc. Alors bah, le bilan carbone, qu'est-ce qu'on ferait pas évidemment pour que vous gardiez un lien fort avec vos racines? On sait que La Réunion, on peut faire une petite exception, est à l'autre bout du monde. On commence avec le combava, alors on en a déjà parlé. C'est donc un agrume, mais c'est également une feuille que vous utilisez et qui apporte des notes très florales et très aromatiques dans quasiment tous les plats réunionnais et dans votre cuisine, Kelly.
Oui, tout à fait, on est très branchés agrumes avec Jérôme, on adore ça. Le combava, on pourra en mettre sur tous nos plats, mais il faut pas en abuser parce que ça peut être vite écœurant et beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Mm-hmm. Donc en fait, maman, tout simplement, elle a un pied de combava dans le jardin. Donc en fait, on lui fait une petite liste
Et elle va casser tout ça le matin. On dit casser, nous, donc cueillir.
Casser.
J'utilise vraiment des termes réunionnais aujourd'hui. Ouais.
J'adore.
Cueillir.
Mais la cueillette ne fait pas mal, hein, même si
mais
c'est cassé.
Les réunionnais comprendront. voilà, cueillir des feuilles de combava. Elle cueille tout ça le matin. L'après-midi, ça part dans un colis. C'est expédié. Le lendemain, c'est à Paris, donc par la famille, par le biais d'amis ou un chronopost. Donc, on a des feuilles de combava. On a aussi des feuilles de quatre épices. Les quatre épices qui est... qui est notre laurier à nous à La Réunion. Hein.
Je crois qu'aux Antilles, on appelle ça le bois d'Inde.
Tout à fait.
Et pourquoi quatre épices? Parce que je crois qu'en une seule feuille, vous avez les parfums de quatre épices.
Exactement. Alors, je ne saurais plus forcément... Il y a cannelle, ouais. Poivre...
Oui.
Girofle.
Et muscade. Voilà. Et une feuille dans un plat mijoté. Et c'est ces quatre épices que vous retrouvez. C'est quand même une herbe assez magique à La Réunion et aux Antilles. Également, une feuille qu'on connaît un peu moins, c'est le calou pilé.
Oui, le calou pilé qu'on met énormément, nous, réunionnais descendants indiens, dans nos plats en sauce, dans nos cabris massalés, dans nos plats très relevés. On met une ou deux branches de calou pilé.
C'est une feuille plus petite.
Vous le faire passer après. C'est une senteur assez particulière.
Un peu curry, très épicé, épice
ouais,
douce.
Très épicé, mais vraiment propre à elle-même.
C'est la feuille de curry, en fait.
Oui, c'est la feuille de curry, absolument. Originaire d'Inde et qui s'est acclimatée dans les jardins mauriciens, réunionnais, la feuille de calou pilé, qu'on peut utiliser dans des sauces également.
Oui, tout à fait. Dans des sauces, et Jérôme l'a même agrémentée dans une truffe noire au chocolat au restaurant.
Bravo. Oh. Et vous nous avez aussi apporté, on finit avec ça, un autre produit très populaire à La Réunion. Ouais. Assez connu d'ailleurs des pâtissiers et des gourmets en métropole, c'est une douceur tropicale, c'est...
Le galavé.
Le galavé, voilà. C'est un bloc de sucre qui est moelleux en bouche également, qui est fort en goût.
De couleur caramel.
Un joli marron foncé. Donc on les fait en bloc de 200 grammes. Principalement, et puis on fait des petits paquets, un petit peu moins de 100 grammes, et des toutes petites pièces. Ouais, c'était le petit bonbon longtemps, on va dire, l'ancien petit bonbon à croquer. Je vous fais goûter.
C'était un extrait d'On va déguster. En voyage à La Réunion, on a eu la chance d'aller y faire des émissions. Il y avait La Réunion en deux volets. D'ailleurs, on vous a mis le lien pour réécouter ces émissions spéciales cuisine réunionnaise. C'était en 2017. Vous avez reconnu la personne à qui on a tendu le micro, qui fait du galabé?
Oui, tout à fait, Canneret de la Fournaise, notre fournisseur de galabé.
C'est dingue.
Ouais, c'est...
Sandrine et Fabrice Lamoli.
Tout à fait, produit bio.
À côté du piton de la Fournaise.
Ouais,
c'est
tout à fait.
Le dernier village avant le volcan. Ouais.
Incroyable.
On a été voir l'année dernière.
Avec des champs de cannes anciennes, incroyable. Définition du galabé pour ceux qui ne l'ont pas encore goûté.
Mélasse de sucre. Sucre non raffiné. Vraiment mélasse de sucre. C'est un produit qu'utilisaient les ancêtres, qui a été remis au goût du jour et qu'on retrouve énormément sur les tables gastronomiques parisiennes en ce moment.
Et là, vous nous en avez carrément rapporté une brique.
On a un kilo.
Vous ouais. avez
on s'est
carrément
dit au cornet, petite faim.
Qui dans le public vient goûter? Vous peut-être? Allez, au micro, vous allez goûter à la fois le galabé et cette formidable recette qu'est en train de nous préparer Jérôme Devrez, qui est donc pâtissier de formation, qui a travaillé dans de grandes maisons. Et vous vous occupez, Jérôme, c'est bien ça, de tout le registre sucré dans le restaurant Femme.
Tout à fait, c'est ça. Donc on a trois desserts à la carte actuellement. On essaye toujours de panacher avec un petit peu de folie de La Réunion ou des Antilles, que ce soit, comme l'a dit Khalid tout à l'heure, le calou pilé. Là, on est sur le gâteau patate douce, donc c'est un emblématique hein, à La Réunion.
Bah alors justement, définition du gâteau patate, car dans le gâteau patate, il y a patate, et en l'occurrence, c'est de patate douce qu'il est question.
Patate douce, tout à fait, la patate douce orange, qu'on va venir tout simplement cuire dans de l'eau, et ensuite on fait donc notre gâteau avec, on va venir mélanger la farine, les sucres, les œufs.
Parce qu'à l'origine, le gâteau patate, c'est une espèce de gâteau un peu compact, mais un peu à la
ouais,
texture de flan.
C'est assez épais, mais c'est très moelleux. Enfin, on y retourne.
Avec de la chair de patate douce, donc de la pulpe de patate douce
cuite. Exactement, et qu'on vient intégrer directement dans l'appareil, quoi. Enfin, dans notre masse de produits. Quoi.
Vanille, sucre
Vanille, rhum vieux.
Ah oui, bien sûr, rhum
vieux. Toujours, pour pepser un petit peu dans la recette. Et petite cuisson à 150 degrés au four. On a une légère croûte à l'extérieur, beaucoup de moelleux et d'humidité en fait, qui se conservent naturellement dans le gâteau. Et c'est ce qui fait un peu la... C'est ce qui fait un peu le truc quoi, dans le dessert.
Comment vous l'avez réinterprété? Là, je vois
là, on l'a allégé,
une part de gâteau patate de couleur orangée, surmontée d'une émulsion.
Là, on est sur une mousse à la baie de cannelier. En fait, l'arbre qui est le cannelier, on connaît ses écorces qui fabriquent la cannelle. Mm-hmm. Mais au bout de cet arbre, il y a des fleurs. Et dans ces fleurs, il y a des pistils qui sont des baies de cannelier. Et nous, on les a réutilisées, on les moudre directement. Avec l'aide d'un poivrier classique. Et donc, vous, tout à fait, vous pouvez y aller.
Je peux passer l'assiette. Ah, vous appelez Jérôme?
Oui.
Alors vous allez goûter ce gâteau patate réinterprété, un bon coup de cuillère, un petit commentaire de dégustation. J'espère que vous allez trouver ça totalement déséquilibré, peu harmonieux. Voilà. Il y a des petites chips aussi de patates douces qui surmontent cette mousse.
On a voulu rajouter une texture un peu croustillante sur le dessus. À l'intérieur, il y a aussi une petite marmelade de citron.
Il va en rester, Sylvie, pas de stress.
Alors, Jérôme. Ben, déjà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre parce qu'il y a un immense dôme de crème fouettée au-dessus.
C'est vrai.
Finalement, quand on tape dedans, on se retrouve avec une texture un peu résistante, mais très douce et très molle. Puis là, on tape sur un espèce de flan assez résistant. Oui. Très parfumé, avec un petit peu de cannelle, j'irais. Puis on retrouve ce côté patate douce.
Fleur de cannelier, feuille de cannelier.
Baie du cannelier.
Baie du cannelier.
Ouais. Et puis donc il y a cette crème qui s'étale, qui fond sur la langue, qui donne de l'ampleur. Et puis finalement, ben, ce goût de patate douce et de cannelle qui explose et qui dure longtemps. Et c'est vraiment délicieux. Et il y a cette petite chips par-dessus qui donne un peu de texture.
Et on a que des gourmets de très haut vol aujourd'hui. Bravo, Jérôme. Et franchement, c'est propre. Ça, c'est du commentaire de dégustation. Vous reviendrez dans cette émission, Jérôme. Ça, c'est garanti. Merci pour ce gâteau patate. J'ai hâte de le goûter aussi, évidemment. Mais c'est au tour d'Esther El Payani.
On va déguster. Sur France Inter.
Estherelle.
Pour une fois, c'est pas des bonbons que je vous ai apportés, mais des fleurs. Parce que pour ceux qui confondent encore le 8 mars et la Saint-Valentin, aujourd'hui, ce n'est pas le jour où l'on offre des roses, mais celui où l'on se bouge pour la lutte contre les féminicides, l'égalité salariale, le congé paternité rallongé, entre 1000 chantiers à lancer pour réaliser enfin le rêve d'Olympe de Gouges, à savoir tout simplement l'égalité entre hommes et femmes. Mais puisque l'Olympe de Gouges n'est toujours pas au Panthéon, je me suis donc offert des fleurs ce matin pour me consoler. Des fleurs, mais pas n'importe lesquelles.
Des pétunias pour la colère, des soucis pour le chagrin ou des œillets pour l'espérance?
Le féminisme, ça pourrait être un bouquet de ces trois-là, en effet. Mais il y en a une qui rassemble tout ça, et c'est le mimosa. C'est la fleur qui a été choisie en Italie en 1946 pour symboliser la lutte pour l'égalité des genres. Si même les fleurs sont féministes, il n'y a donc aucune raison de ne pas l'être, qu'on soit homme ou femme. Et si le mimosa a été choisi, c'est parce que c'est une fleur abondante et pas chère, parfaitement de saison. Néanmoins quand même, cette année j'ai eu du mal à dénicher de l'acacia dealbata, car il a fait chaud, très chaud, donc sa saison est presque finie.
Heureusement on a les dernières branches sur le plateau dont on va déguster.
Normalement quand les asperges pointent, ça fait longtemps qu'on n'en a plus. Et là elles sont déjà sorties depuis plus de 10 jours. Changement climatique oblige, on risque donc de devoir changer de fleurs pour le 8 mars. Et peut-être qu'on pourra bientôt passer aux jonquilles, symbole de renaissance et de renouveau.
Aimer le mimosa quand même quand on porte un prénom comme vous qui sent la Côte d'Azur, c'est vraiment la jouer... Hyper local, Estherelle.
Alors, contrairement à ce qu'on croit souvent, le mimosa et la Riviera, c'est plutôt une histoire récente qui implique le monde entier. Born les mimosas, c'était plutôt Born to be wild. Wow. Parce que avant que le mimosa venu d'Australie ne s'y soit acclimaté, le mimosa a été ramené en effet de Tasmanie par le capitaine Cook. Lui, celui-là, avec son nom, il était prédestiné pour nous. Enfin, les mimosas, devrais-je dire quand même, puisqu'il y a plus de 1200 variétés. Et en France d'ailleurs, c'est à une femme que l'on doit l'arrivée du mimosa, une passionnée d'horticulture méconnue, originaire non pas de La Réunion, mais de la Martinique, Joséphine de Beauharnais.
Ah oui.
Ce sont en effet les serres de la Malmaison qui ont accueilli les premiers pieds vivants au début du 19e siècle, qui furent ensuite envoyés au jardin botanique de Nice avant de coloniser toute la région. Et c'est d'abord son utilisation en parfumerie qui a fait son succès, et aussi sa période de floraison hivernale. Il fut longtemps la seule fleur de l'hiver et on en envoyait des trains entiers jusqu'en Angleterre.
Et c'est aussi, figurez-vous, à Joséphine de Beauharnais qu'on doit l'acclimatation en métropole de la patate douce.
Exactement.
Le mimosa, ça se mange aussi, il paraît, Estherelle.
Oui, il y a les pétales de rose et les violettes cristallisées, et aussi les boules de mimosa au sucre qu'on mangeait quand on était petit.
Oui,
dans le temps, c'était du vrai mimosa. Bon, maintenant, c'est 100% pur sucre. Et si vous avez la chance d'avoir un mimosa dans votre jardin, donc non traité, vous pouvez aussi réaliser un sirop avec. Après, le mimosa, c'est aussi le nom d'un cocktail que je ne fais pas l'affront de vous servir, un mélange de champagne et de jus d'orange. Et le nom vient de sa couleur. Et puis, enfin, j'aurais pu faire des œufs mimosa, mais c'était un tout petit peu trop simple.
Ah, je pensais que vous alliez oublier les œufs mimosa.
Non, alors j'ai regardé du côté de l'Australie, puisqu'il est originaire de là-bas. Et là-bas, le Golden Wattle, c'est le nom australien du mimosa, il a donné son nom au Golden Wattle Cookery Book, un livre de cuisine très populaire publié en 1924. Par une femme évidemment, Margaret Wheely, professeure d'économie domestique. Et dedans, j'ai trouvé la recette d'un gâteau mimosa que je vous ai apporté. Un gâteau au jus d'orange tout simple avec un glaçage bien anglo-saxon au sucre glace. Dont je vous laisse la recette sur le site dont on va déguster.
Oui, la recette de gâteau mimosa australien. de par Esther El Payani sur franceinter.fr, la page On va déguster. Il nous reste une poignée de secondes. Merci quand même d'avoir été avec nous. Il est hallucinant ce gâteau patate.
Ouais, avec le citron vient bien alléger. Enfin, les balances sont bien faites.
Il allège le gâteau patate qui, dans certaines familles, est un peu clou.
Ouais, mais je voulais quand même garder ce côté généreux parce que sinon on s'en éloigne et c'est plus un gâteau patate douce. Mais on le retrouve quand même dans le fond de l'assiette. Donc on dit toujours au client, allez bien au fond de l'assiette pour bien retrouver la générosité du gâteau.
Superbe. Kelly, Rangama et Jérôme Devresse qu'on peut retrouver au Fourneau du Femme, votre restaurant une étoile Michelin, 108 rue Cardinet, Paris 17e, avec notamment, on l'a dit, une formule déjeuner à 35 €. Merci vraiment d'avoir été là. Merci, on en est absolument ravis. La semaine prochaine, on met à l'honneur un légume d'hiver et de printemps, figurez-vous, c'est le radis. Ce sera Radio Radis avec notre ami du potager Xavier Mathias et la chef lyonnaise Sonia Esgulian qui a imaginé plein de recettes poétiques avec la radio. Signalons aussi qu'il y a une recette de carpaccio de Saint-Jacques à la mangue. On n'a pas eu le temps de la faire malheureusement, mais disponible sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci encore d'avoir
été
là.
Merci à vous.
À dimanche prochain. Si vous avez encore faim, il est midi à 5 secondes près à l'horloge de France Inter.